Mode d'emploi. Mode d'emploi.
Oui, bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec nos deux grands reporters qui vont nous parler. Donc Christophe, bonjour Christophe. Ludo.
Bonsoir.
Et également Fred qui est une artiste que vous connaissez bien maintenant. Bonjour Fred.
Oui, bonsoir.
Qui est déjà passé dans notre antenne, qui est donc artiste, chanteuse, danseuse, comédienne, etc.
Danseuse.
Bon, on dansera ensemble plus tard, mais pour l'instant, on est dans l'émission Mode d'emploi. Donc ce soir, nous parlerons bien sûr de tout ce qui fâche, évidemment, des emplois à la Macron, donc avec le CDI de projet, des gens qui sont discriminés quand ils sont étrangers ou qui sont de la deuxième génération, troisième génération, au niveau des études, également de l'emploi. Également une partie un peu européenne avec, bien sûr, la Grèce, la crise grecque et la crise au Portugal. Sans parler des autres pays qui sont touchés aussi par la grande crise de l'austérité, c'est l'Italie et l'Espagne, bien sûr. Nous en parlerons plus tard, peut-être. Et en fin d'émission, donc, nous parlerons de Fred et de son actualité musicale. Merci. C'est toujours Fréquence Paris Pluriel. Si vous voulez bien sûr réagir sur l'antenne en direct, vous faites le 0140 05 06 10. 0140 05 06 10. Nous aurons plaisir donc de vous entendre et de répondre éventuellement à vos questions. Voilà. Donc Christophe, tu peux nous parler un petit peu de cette discrimination faite aux jeunes et aux moins jeunes quand ils viennent un peu d'ailleurs au niveau
Alors,
de l'emploi et de la formation.
En ces temps jupitériens et romanesques, doit-on faire sur cette nouvelle planète macronienne élaborer les grandes nouveautés et des réalités de la société? Eh ben, premier défi, il n'en est rien, puisque l'INSEE publie ces derniers temps une étude très intéressante qui compare les personnes sans ascendance migratoire, donc ceux qui sont dits de souche, et les descendants d'immigrés maghrébins. Il s'avère que ces gens-là sont en position de faiblesse si on regarde leur salaire, l'accès à l'emploi et l'obtention d'un diplôme. Alors, c'est une très très longue enquête qui a été réalisée par l'INSEE, qui a été publiée mardi dernier. Et en fait, les inégalités tant salariales que sur les autres paramètres que je viens d'indiquer sont une réalité. D'autant que ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que l'enquête ne porte pas simplement sur un échantillon représentatif de la population. Elle porte sur une période de 2013 à 2016. Donc c'est au-delà de la dégradation économique, des choix économiques de l'emploi, sur une longue durée comme ça, on peut sortir des choses. Donc, à ton avis, c'est quoi les premiers paramètres, Gilles, par rapport à cette enquête sur « Moi, je suis descendant d'origine, j'ai une migration d'origine maghrébine, qu'est-ce qui se passe pour moi, sur ma chaîne ?»
On sait toujours que les populations maghrébines ou africaines ont toujours plus de mal à trouver un travail en France par rapport aux Français. Mais maintenant, j'ai pas de...
Là, on a des données concrètes de l'INSEE. D'abord, ces personnes-là sont moins bien payées. C'est-à-dire qu'au sommet de l'échelle salariale, les descendants d'immigrés semblent se heurter à un véritable plafond de verre, puisqu'ils ne peuvent pas prétendre à dépasser la rémunération qu'ils touchent déjà. Ainsi, tu as à peu près 10% des descendants d'immigrés maghrébins qui sont mieux payés, mais 18% qui perçoivent à salaire et qualification égale moins que ceux qui n'ont pas cette descendance migratoire. Ça, tu vois, ça a l'air de rien. Pourtant, il y a des conventions collectives, il y a des normes, tu vois. Il aurait pu difficile de gagner plus de 3000 euros par mois, sachant que c'est quand même une grande minorité de population qui gagne plus de 3000 euros par mois. Mais pour eux, c'est encore plus difficile. Il y a une inégalité réelle par rapport à l'emploi, puisque on se rend compte qu'entre deux catégories, tu vois, de diplômés, par exemple, bac, puisqu'on a la période du bac, 10 ans ou 20 ans après leur entrée sur le marché du travail, t'as une différence de 20 points sur leur situation par rapport à l'emploi. C'est énorme. Ça veut dire que quand t'es issu de l'ascendance du Maghreb, En gros, tu as un taux de chômage pour les 25-40 ans qui est de 29%. Ce qui est énorme.
Énorme, oui, effectivement.
Ce qui est énorme.
La qualification égale pour un poste, c'est ça.
Voilà. Donc d'accord. Le plafond de verre, il est encore plus haut pour les femmes, parce que ça s'explique aussi pour un mode de vie qui est que très souvent l'élément féminin connaît effectivement l'ensemble des contrats beaucoup plus précaires. Il y a un niveau de qualification moins élevé, et puis il y a aussi le postulat de s'occuper de la famille, de l'ascendance familiale, qui fait que il y a des coupures dans le parcours professionnel. Et ça reste toujours, non pas alors que ce qui est intéressant, alors que, parce que on parle de l'immigration maghrébine, mais avant il y avait les Polaques, les Ritards,
les Italiens,
voilà,
les
donc
Asiatiques,
on va pas refaire l'histoire
aussi,
de l'immigration en aussi. France. Mais la notion de famille et d'avoir son temps de construction de famille était très important. C'était, hein, ça a même été à l'origine d'idéologies fascisantes, hein, travail, amour, famille, patrie. Hein, on va pas développer. Mais là, le fait de postuler sur la construction de la cellule familiale, et ben, ça paraît être un handicap par rapport à l'emploi. Tout ça pour te dire que qu'est-ce qui se passe, hein, en gros, bah, il se passe qu'il y a ces difficultés sont réelles. On se rend compte que la notion de stigmatisation ou de, si tu veux, de discrimination, en fait, elle se voit sur à compétences égales, diplôme égal, expérience égale, égal salaire moins élevé. C'est-à-dire qu'il y a une notion de promotion, de revalorisation qui se fait moins voir, hein. Il y a moins souvent d'emplois, et puis le taux de chômage, donc ça c'est très important, hein, il est deux fois supérieur à celui des hommes sans ascendance migratoire à la fin des études. Alors ça, c'est ce qui fait que le taux de chômage de cette population s'élèverait en fait à 29%. Donc t'imagines, par rapport à des bassins d'emplois comme par exemple on peut penser les Bouches-du-Rhône, hein, Marseille et tout, puisque c'est une terre d'arrivée du Maghreb. Le taux de pauvreté que ça engendre sur ces données, sachant qu'il y a, il y a des chutes d'activité du fait de la notion famille de, chez les personnes issues de l'ascendance maghrébine et féminin. Donc il y a une moins grande chance d'accéder au salaire. Et ce phénomène de sans ascendance migratoire à qualification égale salaire de 18% à 20% plus élevé, ce qui n'est pas rien. Sur 1500 euros, avoir 300 euros de plus, c'est pas rien.
Ah oui, c'est clair.
Tu vis pas de la même manière avec 1100 euros que 1500 euros. Voilà. Donc ça, c'est un fait. On constate que cette forme de stigmatisation et autres, elle se fait pas forcément sur la couleur ou la notion de religion ou d'appartenance culturelle, mais va se faire tout au long de la carrière, hein, beaucoup plus, de façon beaucoup plus insidieuse sur, ah bah là, vous vouliez tel échelon ou tel grade par rapport à votre qualification. Ça va pas être possible. Et à la fin, on a 20% d'écart. Et ça joue évidemment sur la retraite. Ça, c'est une enquête très intéressante. Je crois que c'est une des premières du genre à l'INSEE, mais ça pose beaucoup de questions.
Alors, je ne sais pas si c'est la première du genre à l'INSEE. En tout cas, je sais qu'il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits par des professeurs d'université sur le problème de des migratoires, sur les problèmes d'emploi chez les jeunes de la deuxième génération, sur la troisième génération. Mais c'était leurs chiffres à eux. Là, c'est des chiffres de l'INSEE. Donc apparemment, a priori, c'est des chiffres qui sont valides et valables, pour le coup. Donc c'est intéressant, effectivement, d'avoir un chiffre, des chiffres sur ce sujet.
Ce qui fait froid dans le dos, c'est quand même le taux d'inactivité de 29%.
Ah, c'est énorme.
Salaire et diplôme égal à l'entrée, ou même 5 à 10 ans après le début de la vie active. Quoi.
Alors pour rester, je vais te laisser la parole encore quelques instants pour rester un peu dans le sujet, parce que bon, vu tous les problèmes que la France a rencontrés depuis ces 30 dernières années, hein, voilà, après les 30 glorieuses, nous avons successivement, année après année, le chômage qui se creuse, etc. Donc plus en plus de misère, moins en moins de riches, mais de plus en plus riches pour le coup. Donc quel est exactement ce CDI de projet? Est-ce que tu as suivi un peu l'affaire pour le coup?
Alors, c'est une promesse de campagne du programme d'Emmanuel Macron et de la majorité actuelle. Alors, c'est vraiment une idée qui fait débat même au sein des salariés. Mais ça pose vraiment des questions en termes de garantie, etc. Alors, voilà. C'est quoi le CDI de projet? Donc, il y a une réforme du Code du travail qui va être faite depuis le mercredi 28 juin avec des ordonnances. Et on va apprendre le fait que la notion de CDI de projet. En fait, CDI de projet, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui est à mi-chemin entre le CDI et la mission d'intérim. C'est-à-dire qu'en fait, on donne à une personne une mission, mais c'est pas quand elle va s'arrêter. Le temps d'en chantier.
C'était le cas dans le BTP, a priori.
Voilà, c'est, ça va être étendu à d'autres domaines. On ne sait pas, par exemple, voilà, on veut que vous construisez tel bâtiment, vous êtes engagé en tant qu'ingénieur, on ne sait pas quand ça va s'arrêter et tout. Alors, cette idée de souplesse au niveau économique, elle a un peu logique quelque part, parce que si t'es, même si tu construis en tant qu'architecte avec des impondérables qui est lié à la construction d'un bâtiment, si tu veux, tu vas pas dire « Oh ben dans 3 mois, je vous promets, ça va s'arrêter. » S'il y a un impondérable ou tel problème technique, forcément, il y a des... Tu vois, on est obligé d'avoir un peu de souplesse par rapport à ça. Donc, sauf que les différents salariés interrogés disent « Ben oui, mais il y a quand même plusieurs problèmes. » C'est que le problème, c'est qu'on peut jamais se poser puisqu'on sait pas quand ça s'arrête et que du jour au lendemain, on peut nous dire « Merci, au revoir, c'est terminé. » Ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que les banques exigent des CDI pour faire des emprunts, notamment pour l'accès au logement. Donc, ça oblige les gens à tricher, hein, à avoir des cautions de fonctionnaires, puisqu'il y a l'exigence du CDI, ce qui est absolument
Vous pouvez intervenir si vous avez envie.
Allez, sinon. Donc, ce que dit, je vais citer quelques propos. Par exemple, Laurent, ingénieur en BTP. L'impossibilité de se projeter à long terme génère un sentiment de précarité. La réalité du chantier ne me permet pas de me projeter à plus d'un mois. Ma hiérarchie me parle d'une fin de mission depuis un an, mais cela a déjà été reporté 2 fois. Donc ça fait trois ans, on lui dit c'est terminé, mais ça a quand même continué.
C'est une véritable pompe à stress.
Mais absolument.
Exactement.
Et puis quand on vous dit quand c'est terminé, on vous dit du jour au lendemain dehors, débrouillez-vous. Alors il y en a certains qui disent ah oui, mais moi pour moi c'est pas que de la précarité parce que les salaires. Fait de cette, on ne sait pas quand ça s'arrête, donc pour vous attirer en tant que produit d'appel, qu'est-ce qui se passe notamment pour les techniciens employés, pas simplement les ouvriers de bas qualification, il y a des salaires qui sont meilleurs. Donc il y a des défenseurs du CDI de chantier hein, qui disent ah ouais, mais nous on veut ça parce qu'on a des meilleurs salaires. C'est là, parce que financièrement on s'y retrouve. Sauf que ben, pour l'accès au logement, c'est la galère. Hein, je dois le rappeler. Et puis, la conséquence, c'est que les gens qui sont dans ce type de choix de vie, hein, parce que certains le choisissent du fait des avantages financiers, ben, ils sont obligés de mentir par omission pour avoir leur dossier de financement ou par l'accès au logement. D'autres qui vous disent, oui, mais moi, c'est mon choix, parce que du fait de cet argent supplémentaire, je conserve ma liberté. Cette flexibilité en embauche bénéficie au salarié qui peut s'en aller, etc., etc. Sauf que dans la réalité du CDI de chantier, ben, devinez quoi? Il n'y a pas de prime de précarité.
Il n'y a pas les fameux 10%.
Voilà, donc évidemment, ça arrange les employeurs. Hein.
Oh bah
alors, 10, oui, mais comme on peut être viré du jour au lendemain, ça crée une émulation professionnelle.
Je te demande une seconde, Christophe. Tu veux peut-être réagir, Frédéric, sur...
Pas de prime de précarité, ouais. Oui, j'ai réagi, je ris.
Tu ris, ouais, c'est risible, effectivement. Excellent.
Oui,
très bien,
oui,
bah, c'est moi.
Alors, certains disent, moi, je travaille depuis une dizaine d'années uniquement avec ces contrats. C'est mon choix, je conserve ma liberté, je peux choisir les chantiers intéressants, ajoute Dominique. En plus de l'expérience que ce genre de contrat peut apporter dans une carrière, Kevin considère également que c'est un moyen de créer une émulation professionnelle. Alors, j'adore, parce qu'on crée le benchmarking de la variable et de la compétence professionnelle.
C'est cela.
Ça, c'est du macronisme beau comme l'antique.
Hein. On est bien content.
Tu viendras dans mon bureau, Christophe, après on fera une évaluation d'étape.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en d'un revers de manche, il balaye tout ce qu'il peut avoir encore un tout petit peu à voir avec un machin très ancien qui s'appelait la lutte des classes.
Oui.
Je ne sais pas si on se souvient encore, mais.
Oui, tout à fait. Oui,
on en a parlé, moi, à mon époque.
Oui, mais moi aussi.
Ce machin, comme dirait De Gaulle.
Mais nous, on est presque retraités, donc, pour le coup.
Comment?
On est presque retraités, donc là, c'était...
On est quasiment, oui. Un peu, quoi.
Merci, Christophe. On va... Tu avais fini, non?
Ça pose une problématique. Alors, ce qui est absolument intéressant dans cette histoire, c'est que dans l'article, si tu veux, il y a une chose qui est étonnante, c'est que cette notion de liberté économique est tellement imprégnée dans notre système de pensée.
Hein, pas dans la mienne en tout cas.
Pas dans la nôtre, je pense. Mais
Les systèmes de consommation aussi pour exister,
c'est ça,
etc.
C'est ça.
C'est que il y a des chercheurs CNRS qui se réjouissent du CDI de chantier. Parce que, comme ils avaient des contrats plus précaires, ça leur permet de continuer leur mission, et comme le temps de la recherche n'est pas le même temps que les autres, machin, bidule. Enfin, c'est intéressant comme concept. Voilà.
C'est sûr. Bien. Bah oui, mais bon, on va pas non plus passer notre temps à leur faire plaisir, quoi. Enfin, bon.
Voilà.
Peut-être pas là uniquement pour ça.
Voilà. Merci à tous. On écoute une petite chanson. Ensuite, on reprend la parole. Oui, vous venez d'entendre donc Trois roches perforées. C'est donc de Pierre Henry, qui était un grand compositeur, qui était à l'origine de la musique électronique avec des magnétophones à bandes. Hein, donc voilà, il tournait les magnétophones, enfin les bandes des magnétophones, et il faisait de la musique électronique avec ça.
Ouais.
C'est un des premiers, enfin il fait partie des précurseurs en tout cas. Ce grand compositeur musicien est mort donc ces jours derniers.
Ah,
et voilà, c'était pour lui rendre hommage que nous avons passé cette chanson, enfin ce morceau de musique plutôt. Merci en tout cas à Claude de nous avoir retrouvés.
Merci Claude, hein. C'est très voilà. Très bien d'avoir fait
voilà,
ça.
Voilà, donc nous souhaitons bien sûr des condoléances à tous ses amis, à sa famille, hein, évidemment, ça va de soi.
Oui,
voilà. Tu l'as connu peut-être non,
bah, bon, moi j'écoutais Pierre Henry, puis c'est lui qui avait créé également pour le ballet du XXe siècle.
Oui, il paraît,
tu te souviens,
oui.
Enfin, tu te souviens peut-être pas.
Ah non, j'étais peut-être trop petit,
je sais pas. Tu es plus jeune, oui, voilà. C'est vrai.
J'étais en culotte courte.
Voilà, bah oui.
D'accord.
C'est bon, c'était en culotte courte, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, okay, c'était, ben voilà. C'était très très bien. C'est un grand compositeur, Pierre.
Très bien, ouais, nous saluons sa mémoire et puis voilà,
oui.
Et toute sa famille et ses amis. On va reprendre cette émission, donc c'est bien Mode d'emploi. Pardon, l'émission des chômeurs et précaires, fréquence par employeur 106.3 FM. Si vous voulez toujours intervenir, c'est le 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. On va passer maintenant sur le plan international parce que l'austérité attaque toujours les pays les plus fragiles, particulièrement la Grèce, et c'est Ludo qui va s'y coller puisqu'il a étudié le sujet avec brio comme d'habitude. Alors dis-nous
oui,
un petit peu Ludo.
Oui, en fait, si on parle de la Grèce, c'est égoïste.
Hein, oui, bien sûr.
C'est qu'en fait, on pense à nous. Et donc oui, on parle de la Grèce en fait pour parler de ce qui nous attend nous avec notre super hyper président jupitérien.
D'accord.
Jupitérien, oui, c'est vrai.
Et du coup, voilà, donc il vous a peut-être pas échappé que il y a eu un accord de l'Eurogroupe donc le 15 juin 2015 sur la dette grecque. À savoir, c'était très tendu. J'y étais pas, mais on m'a dit que c'était tendu. Puisqu'effectivement, le FMI a pour la première fois depuis le début de la crise grecque, hein, dans l'année 2007, pondu un rapport pour dire que la dette grecque n'était pas soutenable en l'état et qu'il fallait la restructurer. Dixit, le FMI, qui est quand même un organisme gauchiste, hein, très renommé et connu, et qu'il allait bien falloir la restructurer. Problème, il ne vous a pas échappé que c'était les élections en Allemagne en novembre 2017 et que la majorité très conservatrice de Madame Merkel n'avait pas du tout l'intention de céder
d'un
pouce. Alors, je peux, oui, j'aurais dit Monsieur Schäuble. Alors, oui, bon. Voilà.
Merkel est plus croustillante parce qu'elle était quand même un petit peu sèche.
et pas Merkel.
C'est vrai que Merkel a des rondeurs que l'autre n'avait pas.
Exactement.
Nous sommes d'accord.
Oui, enfin, on l'entend pas beaucoup non plus. Et par contre, on entend bien son ministre des Finances, Monsieur Schäuble, qui lui est à l'Eurogroupe et qui a fait valoir la position de l'Allemagne, donc intraitable, c'est-à-dire pas de restructuration de la dette grecque. Et donc,
ça veut dire que cette dette, elle s'est multipliée par combien par...
Ça veut dire nein.
Merci Christophe. Alors, cette intervention non, absolument
c'est
géniale, c'est Christophe.
La dette aujourd'hui, c'est donc 310 milliards d'euros.
Ah oui, quand même.
Et ça représente. Ouais. Alors oui, enfin c'est beaucoup et pas tant que ça. Effectivement, c'est beaucoup ramené au PIB. Ça représente 195%
du PIB.
Pardon, 180% du PIB grec. Mais il faut bien se dire qu'au début de la crise, on disait que le PIB grec était l'équivalent de celui de la Seine-Saint-Denis, ce qui était un peu voilà. Voilà, c'était un peu exagéré, mais ce qui fait que c'est en fait une dette qui est en réalité tout à fait soutenable.
C'est pas gentil pour le 9-3.
Voilà. Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas gentil pour la Grèce finalement, parce que c'est peut-être un peu exagéré comme comparaison, mais en tout cas c'est une dette qui était parfaitement soutenable par tous les pays européens.
Oh oui.
Voilà. Or Or, finalement, c'est la conclusion des économistes de gauche qui nous inspire donc
ces textes. Économistes atterrés peut-être, non,
c'est les mêmes. Entre autres, ouais, entre autres. Oui, c'est un peu les mêmes. Mais qu'au fond, si la dette n'a pas été absorbée, entre guillemets, enfin, n'a pas été prise en charge par le reste de l'Europe, c'est pour l'exemple, en fait. Hein. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas d'effet de contagion et pour que tous les pays européens, et notamment les pays du Sud, veillent à leur bonne orthodoxie budgétaire, et c'est-à-dire à équilibrer, soi-disant, leurs comptes publics. Je précise qu'en France, on n'y est pas encore, et qu'en Allemagne, on y est en trafiquant les comptes. Hein, mais ça, c'est un détail.
D'où l'expression prémonitoire, maintenant reprise par les banquiers. Si tu n'as pas ton crédit, va te faire voir chez les Grecs.
Ouais. Alors voilà, ou d'où l'expression prémonitoire, remettre la restructuration d'une dette au calende grec, qui ouais, prend tout à fait son expression. Et alors, donc c'est quand même très emblématique, parce qu'il faut se souvenir que, la dette grecque a été nationalisée, en grande partie, c'est-à-dire qu'elle est passée des banques à la BCE, aux États, donc finalement, c'est quand même les États européens qui ont volé au secours de la Grèce, mais deux, qu'elle a permis des profits juteux pour les 10 États et pour les banques. Donc je m'explique. Vous prêtez, la BCE ou les États européens prêtent à l'État grec.
On va dire 10 milliards, tiens,
Ils prêtent à un taux d'intérêt. Il est vrai que la BCE ne prête, donc dit-elle, qu'à 1,5%. Et par contre, dans un premier temps, les États européens ont prêté à des sommes qui allaient parfois, je crois, jusqu'à 4%.
Oui.
Oui. Et donc du coup, il faut quand même bien payer les intérêts, bien sûr.
On paye d'abord les intérêts avant de payer la...
Non, on paye la tranche, mais il y a toujours les intérêts courts, en fait.
Oui, bien sûr.
Oui, alors évidemment, dans une dette classique, on paye bien sûr les intérêts, bien
en premier. Classique, voilà. Quelque part, oui.
Donc oui, tout à fait.
C'est le même principe.
Mais c'est un choix, voilà. Voilà, ça c'est au choix du créancier. Mais du coup, effectivement, donc les remboursements des créances ont été, oui, pour faire court, mais astronomiques.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pour faire court, imaginons que, bon, parce que tous nos éditeurs ne sont pas spécialisés en économie ou en calcul mental, hein, moi non plus. Donc, on va dire qu'un grec me demande, je suis une banque, un grec me demande 100 euros. Bon. Je prête 100 euros. Combien j'ai eu demandé de me rembourser, là? Si on prend un exemple par rapport au
pourcentage. 4%.
Ah, 4%. C'est 4%, voilà. C'est basé sur 4%, d'accord.
Voilà.
Uniquement.
4%. Okay. Mais 4%, c'est. Alors, dans un crédit normal, c'est mensuel. Si tu veux.
D'accord.
Donc, ça fait quand même pas mal à l'arrivée. Voilà. D'accord. Mais non, c'est. Voilà, 4%.
Oui,
et puis, il y a eu un autre effet aussi, dans un premier temps, c'est qu'au fond, la Banque Centrale a absorbé les dettes grecques. Elle a prêté aux banques qui ont eux-mêmes prêté à l'État grec, qui ensuite a remboursé ses intérêts.
Ouais, c'est compliqué.
Aux 10 banques. Non, en fait, non. C'est très simple.
D'accord.
C'est que grosso modo, l'État prête aux banques à des taux. La BCE prête aux banques à des taux très faibles.
Oui.
Les banques prêtent à l'État grec à des taux un peu plus élevés.
Oui.
Et les banques encaissent les intérêts de la dette. Comme ça, elles se sauvent elles-mêmes.
D'accord. Donc en fait, elles prêtent aux banques, mine de rien, quelque part.
Elles prêtent pour renflouer ses propres banques.
C'est ça.
Parce que il faut savoir que les banques, la banque française et les banques allemandes, enfin les banques françaises surtout, étaient les plus exposées à la dette grecque. Ce qui fait
d'accord.
que la Grèce a remboursé une somme astronomique de taux d'intérêt au tout début de la crise. Et quand je dis astronomique, c'est aujourd'hui on a les chiffres, donc c'est la Grèce a remboursé 700 millions d'euros à la France et elle a remboursé 2 milliards d'euros par an. Entre 2010 et 2012.
Tu parles par an, là.
Oui, par an.
2 milliards par an. Mm-hmm. Entre 2010 et 2012, sur 3 ans, chaque année, juste à la BCE. Et ça ne fait partie juste à la BCE. Ça fait 6 milliards. Hein. Et la BCE ne représente que 25% de ce qu'elle doit rembourser. C'est-à-dire qu'elle rembourse à toutes les institutions. Ce qui fait qu'en réalité, la Grèce a remboursé des sommes qui paraissent tellement astronomiques
donc trois fois
que,
plus que
oui voilà que même je cite pas parce que je cite pas parce que les chiffres
sur 4 ans ça fait 25 milliards.
2 milliards par an donc sur ça.
Non mais tu dis que ça représente 25% donc.
Ouais, 27% voilà.
Bah donc 6 milliards sur 4 ans, tu multiplies par 4, ça fait en gros ils ont remboursé 25 milliards sur 4 ans.
Au minimum.
Au minimum.
Au bas mot.
Donc
Alors que leur dette, au départ, était de combien?
Leur dette est de, a explosé hein, sous l'effet de la crise. Elle est de 300,
d'accord,
300 milliards. Ils ont payé, tête, oui. Ils ont, sur la totalité, on leur a prêté 290 milliards.
D'accord.
Mais okay. Bon, ça paraît abstrait comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'au fond, la dette crée un mécanisme de dépendance. C'est-à-dire que les intérêts filent directement, donc, hein, grosso modo, on prête l'argent et l'argent file aux banques. Donc, ça fait autant de, d'argent que vous n'investissez pas dans l'économie. Et ça s'accompagne de mesures d'austérité pure et dure. Hein. Je crois que la Grèce en est à son 14e plan de réforme des retraites. Sans parler du plan des impôts, de coupes, etc. dans les salaires. Donc, la Grèce ne peut pas dégager des excédents. Enfin, ça plombe sa croissance, en fait.
Donc, hein, elle est asphyxiée
par sa dette. Mais en plus, elle rembourse aux banques. Et donc, sa dette, le ratio de sa dette augmente mécaniquement.
Donc, c'est en train de dire que c'est le serpent qui se mord la queue, quoi.
Exactement.
D'accord.
Et qu'à la fin, même le FMI, en 2017, donc un certain nombre d'années après la crise, et après 7 ans après les plans d'austérité, tire la sonnette d'alarme pour en déduire qu'il faut, il faut restructurer la dette, sachant qu'aujourd'hui, la dette est en partie dans le domaine public, étant passée dans le domaine public, c'est-à-dire étant détenu en partie par les États, c'est possible.
D'accord.
Mais que l'Allemagne, en campagne électorale, a repoussé la décision à l'année prochaine.
Voilà. D'accord.
Donc tu es en train de nous dire que, en résumé, ce qu'on avait dit lorsqu'on avait reçu un journaliste qui s'appelait Olivier Tosser, là, ce que tu es en train de nous décrire comme mécanisme, c'est argent public, fortune privée
ou plutôt,
des banques.
Voilà, nationalisation. Je privatise les bénéfices, je nationalise les dettes, et c'est tout à fait le cas. Alors évidemment, sur un plan moral, puisque les dettes sont nationalisées, on peut comprendre nos amis germains, on va dire. Sauf qu'en fait, ça n'augure rien de bon pour la suite, puisque tant qu'on restera à cette orthodoxie financière qui est quand même extrêmement rigide,
extrêmement sévère, oui, absolument.
C'est qu'il faut bien imaginer que cette orthodoxie financière va aussi s'appliquer aux autres pays européens. Et donc, quel est le premier pays européen auquel il faut penser?
Le premier.
Le Portugal et l'Espagne.
Portugal. Voilà.
Pas du tout. La France.
Ah bon?
Et bien sûr. Et oui, parce que je ne sais pas si. Bah oui. Où, oui. Je veux dire, pourquoi?
On a 2000 milliards de dettes.
Oui. Moi, ça m'étonne pas du tout.
Ouais. Mais pourquoi penses-tu qu'il faut taguer dans la dépense publique ces derniers temps?
Ah, mais effectivement, parce qu'on a une grosse dette,
de
bien sûr. Oui, c'est
oui,
annonce
enfin,
de Macron.
Elle est soutenable, elle n'est pas... Non, pas une grosse dette, parce que c'est exigé par le partenaire allemand. Et pourquoi faut-il déréguler le marché du travail? Parce que c'est exigé par le partenaire allemand. Donc, oui.
Et si on faisait une bonne guerre à l'Allemagne,
nous sommes en train de nous aligner, en fait, sur la politique allemande. La politique de dérégulation du marché du travail, la politique de réduction des déficits, sachant que l'Allemagne, en réalité, se dérembourse en gagnant des parts de marché sur ses partenaires européens. Hein.
Tout à fait.
Elle le fait en profitant de l'euro.
Et elle fait ça pour soutenir le fait de sa démographie vieillissante.
Absolument.
Et le fait qu'elle a libéralisé nettement plus ses retraites. Il n'y a pas de retraite par répartition en Allemagne. Il y a plus un système, il y a un socle commun, mais il y a aussi des systèmes de type subprime, emprunt toxique, spéculatif.
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, ça, c'est l'expertise de tout ça.
J'ai quand même une question, parce que effectivement, à la question économique, ça s'ajoute la question politique, effectivement, de positionnement idéologique, quand on est plus ou moins au travailliste, au conservateur, au droit, tout de gauche, etc. Mais quand on a quand même avec tout ce qui s'est passé en Europe, etc., mais donc demain Merkel perd les élections et qu'arrive à sa place un mec qui est à la gauche de la gauche, on va dire en Allemagne, bah il va faire comme elle finalement, puisque il sera contraint par rapport aux autres pays. C'est l'austérité partout. En fait, c'est les banques qui gouvernent et non pas les présidents ou les ministres.
Alors,
quelle est ta réponse par rapport à ça? Parce que regarde, en France, on a la gauche, la droite, mais c'est toujours le même
alors
problème.
Non, écoute, là, tu fais du complotisme. Bon. Écoute, j'ai pas la réponse, mais j'en ai une. Si, j'en ai une. C'est que non, c'est un choix politique en fait. En réalité, il est d'économie politique en fait, comme disent les. Voilà,
ouais, je ne sais pas. Il semble un peu absurde.
Au sens où, je veux dire, c'est bien le choix d'une majorité politique.
Tout à fait.
D'impulser. Et en l'occurrence, là, le centre de gravité, en quelque sorte, européen, s'est déplacé vers l'Allemagne, parce que, en tant qu'État, elle est en position de force. Oui, mais bien sûr que si demain, tu avais des Linke qui avait la majorité au Parlement, enfin au Reichstag, évidemment que des négociations seraient possibles. Et que... voilà. Oui, et comme, la, comme l'a dit tout à fait très bien l'économiste qui est à la droite de Mélenchon, finalement, parfois on peut se demander si les ministres, certains ministres des Finances de certains pays, au fond, ne pensent pas aux intérêts d'une petite élite quand ils mènent la politique de leur pays.
D'accord.
C'est-à-dire ne pensent même pas...
Ouais. C'est bien évident.
Ouais.
Mais regarde, juste, je rebondis.
C'est bien évident.
Non, parce que c'est très intéressant, parce que quand on a... Moi, j'ai appelé les deux mains quand Tsipras est arrivé, voilà, enfin, bref... quand effectivement il y a eu un changement de régime un peu beaucoup plus proche de mes idées en Grèce à l'époque, ben on a vu ce que ça a donné.
Il
quoi.
A
le mec
muselé,
il a été muselé par l'Europe.
La Grèce n'est pas, n'est pas l'Allemagne en fait.
C'est
et bien sûr qu'elle était en, position d'extrême faiblesse.
Mais parmi les communistes, j'allais dire les communistes atterrés.
Ils sont aussi atterrés que nous.
Oui, oui, les économistes atterrés. Il y a une réalité qui a été rappelée pendant toute la campagne présidentielle, c'est que cette dette-là, on l'a créée pour enrichir les banques. Qu'est-ce que c'est que ce traité européen de Lisbonne qui interdit à la Banque Centrale Européenne de prêter de l'argent aux États? Il est là le fond du problème.
Bien sûr.
On prête de l'argent à très bateau aux banques qui, elles, vont mettre des taux 3, 4, voire 5, 6 fois plus élevés qui vont s'enrichir. Et c'est comme ça qu'on crée en fait de la pauvreté, alors qu'on est dans la zone européenne, c'est quand même la zone économique la plus développée, la plus riche du monde. On l'oublie, quoi. C'est sidérant, quoi. Comme
ceci dit, c'est un principe qui a été établi, je veux dire, dans tout au niveau des États. Hein. Sauf que parfois, la Banque centrale américaine est capable de faire autrement, et que la Banque centrale européenne a plus de mal.
Merci Ludo.
Pour côtoyer.
Oui, tu voulais parler.
Oui, juste une seconde, mais pour côtoyer parfois. Des gens de la finance internationale, ça m'arrive. Je pense qu'il faut se faire une petite idée un peu triste, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a une dose de cynisme très importante. Et c'est vraiment affolant.
Je voulais juste finir sur le fait que le Portugal, on a quand même un contre-exemple en Europe ces derniers temps, c'est le Portugal,
oui.
Qui lui n'a pas mené de politique d'austérité, puisque c'est une coalition de gauche... et de centre-gauche qui est arrivé au pouvoir.
Exactement.
Et bon, tout en tentant de respecter un peu les critères imposés européens, mais c'est-à-dire en tapant dans la dépense publique, enfin plutôt les investissements publics, elle a quand même augmenté le salaire minimum, essayé de soutenir le pouvoir.
Je crois que le chômage, tu vas peut-être me confirmer, je crois que même que le chômage a un peu baissé. Là,
Alors le chômage a baissé, ils sont
ça, hein.
Historiquement au niveau de déficit le plus bas. De toute leur histoire, enfin depuis 1974 exactement, depuis la révolution des œillets, et ils ont une croissance à 4%.
Ah oui, alors, donc ça marche.
Alors, ça marche, certes, il y a un peu un boom du tourisme, il y a aussi des facteurs, mais en tout cas, il y a aussi une confiance en fait qui est revenue dans l'économie portugaise, chez les Portugais, qui permet, et chez les investisseurs, qui D'accord. a permis ce redressement. Hein, parce que c'est aussi une question de confiance, et pas seulement d'austérité orthodoxe. Or, que dit le Conseil européen de cette performance qui est présentée par le ministre de l'Espagne, notre politique a été galvaudée, stigmatisée. Il répond très sérieusement, méfiez-vous, il y a quand même des risques sur votre économie, méfiez-vous de l'augmentation du SMIC à long terme. Texto, dans le rapport du Trésor, voilà, qu'on peut trouver, qui est en français.
D'accord.
Méfiez-vous et alors ne recapitalisez pas trop vos banques, parce que ça va alourdir votre budget. Vous savez, le système bancaire. Voilà.
C'est excellent.
Vous voyez, vous lisez ça. Mais bon, dans un autre genre, vous pouvez aussi aller consulter, écouter ce que dit le directeur de la Banque de France, qui est récemment, du Trésor, j'explique, qui est récemment passé sur France Inter. Et vous aurez une petite idée de ce qui attend, de la vision des libéraux, de l'économie demain et de ce qui nous attend avec Macron.
Très bien. Merci Ludo. On s'écoute une petite chanson, on reprend la parole. Merci.
Tu ne vas jamais aux collections, tu préfères mettre tes sous à plat pour t'acheter une belle maison drapée par les Dior du gothique. Mais comme on va pas cul tout nu et pique d'abord, moi je voudrais pas. Tu te sapes chez le couturier ton cru, qu'a des harnais démocratiques. Ça te va? frac, ce rien qui t'habille, ça te va. Tes souliers pointus, même s'ils sont fichus, ça te flatte les gambilles, ça te va. Ce sac en lézard qui fait le lézard, sous ses airs plastiques, ça te va. Cet air sans façon dont t'as pris mon nom pour vivre de musique. Tu ne vas jamais chez Rubinstein qu'à de la frimousse en comprimé qui pour deux plombes vous met en scène la gueule des dames pour la parade. Et quand on sort chez les snobards et que je te demande si t'es paré, tu me dis avec ton air anard, moi j'ai le soleil sur la façade. Ça te va, cette gueule de diron, malgré ce que diront les comptes photographes, ça te va. Ce dos qui descend sous l'œil indécent des gars qui te gaffent, ça te va. Des carreaux mouillés quand ils ont regardé la joie qui se défoule, ça te va. Tes mains toutes comme ça par ce je ne sais quoi qui fait les mères poules. Tu ne vas jamais aux collections, tu préfères coudre un peu de bonheur dans notre carré et faire ton rond loin des ballots et de leur système. T'es là jusqu'à la fin des temps à m'écrire le courrier du cœur. Tu me lâches tout juste pour que j'aie le temps de faire une chanson et dire que je t'aime. Ça me va, ta prison dorée, ta bouche adorée en guise de serrure, ça me va. Tes plats mijotés tellement qu'on dirait manger la luxure, ça me va. Ton air bien heureux qu'ont les amoureux qui restent fidèles, ça me va. Qu'on puisse dire un jour, et quant à l'amour, il n'a aimé qu'elle.
Eh bien, dis donc, là, c'est pour le coup, je suis très ému, hein, parce qu'en fait, c'est une chanson, donc ça te va, c'est une chanson de Léo Ferré, bien sûr,
ouais.
Que tu interprètes, Fred, donc tu es avec nous sur le plateau. J'aurais aimé connaître juste, c'est pourquoi tu as choisi le piano, parce que le piano, en fait, Ferré a commencé ses premières chansons avec le piano. C'était un clin d'œil à Ferré ou c'était pas un choix?
Oui, c'est un clin d'œil à Ferré, puis c'est surtout un clin d'œil de sobriété, en fait.
D'accord.
Okay. Ouais, c'est tout, parce que piano, moi, je trouve que, voilà, avec le répertoire de Ferré, ça passe bien, ça permet pas mal de choses. Bon, c'est un instrument qui se prête à peu près à tout, quoi.
Alors, comme tu sais, bien sûr, Fred, parce que tu es comédienne et chanteuse, là, pour le coup, c'est un CD que tu as sorti il y a peu de temps. Comment s'est fait le choix de ces chansons? Parce que Ferré a écrit de nombreuses, énormes. Oui. Il y en a tellement beaucoup qu'on a du mal à choisir.
Oui,
hein.
Oui. Il y en a
comment
énormément.
S'est fait le choix? Tu as choisi par rapport à des choses qui en fait, une histoire dans toi qui...
En fait, ça s'est fait autrement.
D'accord.
Pour une raison simple, c'est qu'on m'a demandé de participer à un festival Brassens qui s'appelle toujours d'ailleurs l'Intégrale Brassens,
qui est dans le 9e je crois à Mairie, c'est ça,
qui était dans le 9e. Oui. Après il se faisait plus, enfin bon bref, il se refait. On m'a demandé de participer à ce festival et il y avait un hommage à Ferré, voilà.
D'accord.
Et on me l'a demandé vraiment au dernier moment, c'est-à-dire peu de temps avant. Et puis bah le choix des autres interprètes de Ferré était déjà fait. Ils avaient déjà pris toutes les chansons qu'ils allaient interpréter, c'est-à-dire toutes les chansons connues, à peu près toutes. Et ben, ne restait que certaines chansons, et fort heureusement, des chansons que je connaissais, moi.
Bien sûr,
ben, ça te va.
Oui.
Bon, ça te va, c'est une histoire un peu particulière. C'est la chanson que, en gros, j'écoutais beaucoup Ferré quand j'étais ado, et puis mon premier copain, il adorait Ferré aussi. Donc, Amour Anarchie, on se l'est passé, je ne sais pas combien de fois. Et oui, c'est clair.
J'ai beaucoup écouté
et cette
aussi.
Chanson-là, c'est ma chanson à moi.
D'accord.
Il me l'a chantée à moi.
D'accord.
Ça me va, parce qu'il y a des taches de rousseur, tout ça, avec ton air anard, machin.
Un moment de jeunesse.
Oh, t'exagères.
Alors, excuse-moi, Fred, excuse-moi, on a fait une petite parenthèse autour de la chanson, ouais, parce qu'on vient de l'entendre. On va reprendre quand même le cours de l'émission, et puis on reparlera de ton actualité.
Oui, tout à fait, à tout à l'heure.
Claude, qui est à la technique, j'aimerais bien écouter comment Monsieur Toublanc, si elle est sur le disque, parce que c'est une de mes chansons préférées, pour le coup, de Léo Ferré.
Ouais,
j'aimerais bien savoir
aussi
comment tu l'interprètes, Fred.
Tu vas voir.
Très bien. Merci, Claude. On va reprendre l'émission dans son cours actuel, enfin son cours classique. On va parler, bien sûr, d'un truc qui est un petit peu, moi, qui m'énerve un petit peu, donc c'est Christian qui va s'y coller. C'est le bail limité pour les travailleurs précaires. C'est quoi cette histoire-là ?
Alors, ça, c'est donc encore une promesse du candidat jupitérien et éternel Emmanuel M.
Oui, voilà.
Donc, logement, Manu veut créer un bail à durée limitée pour les travailleurs précaires. Alors, c'est quoi l'histoire ? En fait, il y a deux types de contrats locatifs en vigueur lorsque vous êtes locataire. C'est et donc l'Élysée planche sur une nouvelle loi, c'est le logement, qui s'appellera logement et mobilité, et vous allez
comment ça va s'appeler, logement et mobilité,
logement et mobilité, et vous allez entendre, parce que ça fait froid dans le dos.
D'accord.
En fait, ce projet de prévoit de créer un nouveau contrat de location destiné aux jeunes, limité dans le temps, de 3 mois à 12 mois maximum. Ce nouveau bail s'ajoutera aux deux autres bouts déjà en vigueur. D'abord, le bail, je le rappelle, parce que les auditeurs ne sont pas forcément au courant, il y a le bail meignerie de 3 à 6 ans pour des locaux vides. C'est le bail traditionnel qu'on signe quand on devient locataire. Et le bail d'un an pour les locations meublées. Et donc, M. Macron, histoire de rajouter de la liberté à la précarité, j'appelle ça la liberté de la précarité du toit, c'est beau comme expression,
c'est beau,
veut un appart CDD, c'est-à-dire ce bail mobilité était une promesse du candidat. L'actuel président de la République espère accroître la mobilité, dynamiser le marché de l'immobilier. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique.
Je ne comprends pas comment il va faire pour dynamiser.
Voilà,
hein,
voilà. Ce bail court sera réservé aux publics les plus précaires, comme les intérimaires et les personnes en CDD. Personnellement, la question qui se pose, c'est que s'il fait des bails renouvelables à 3 mois ou à 6 mois, à 1 an, comment, par quelle aide et par quelle incitation, parce que c'est ça la question qui se pose, par quelle incitation financière, quel type de garantie il va offrir aux propriétaires pour qu'ils louent bien, par exemple aux intermittents du spectacle ou des gens qui ont des statuts précaires. Ça, je m'interroge très fortement.
Parce que là, pour les intermittents, de toute façon, c'est même pas précaire, c'est carrément onirique.
Oui, voilà.
C'est ça, oui.
Mais absolument. C'est-à-dire qu'en fait, la question qui se pose, la question de onirique qui se pose, mais dans la réalité, hein,
ça devient n'importe quoi cette émission.
C'est vendre du rêve. Voilà. C'est vendre du rêve.
On apporte un peu de fantaisie. Voilà. Quand tu veux.
Bah oui. Alors
Détricotage. Merci.
Je suis désolé.
Tu sais que l'alcool, ça attaque le cerveau tout seul, surtout à 8h du matin.
Non, je ne bois pas, c'est pas vrai. C'est un démenti officiel. De 3 mois à 1 an.
Non, mais il faut arrêter de mâcher de la feuille de coca aussi.
Voilà, des locataires comme ça. Et le problème qui se pose, je vais abréger, c'est quoi ?
Non, c'est vrai que c'est dramatique quand même.
C'est tout simplement, est-ce que c'est pas un moyen perdu ou pervers de faire en sorte que il y a un détricotage des droits des locataires, parce que l'histoire du bail précaire, du fait de l'assurance location pour les mauvais payeurs et du fichier mauvais payeur qui est mis en place en France, c'est quand même des sacrées garanties pour propriétaires. On va s'attendre à mon avis à un certain nombre d'abus de pouvoir, ce qui fait que plusieurs associations de défenseurs des locataires s'interrogent sur les contreparties, notamment la suppression de la caution ou l'exigence d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui sont pour eux des vrais obstacles à l'accès au logement. Alors là, ça pourrait être intéressant, parce que ça serait du gagnant-gagnant, mais j'en doute.
Si c'est fait pour les travailleurs temporaires, ils peuvent pas exiger un CDI. Hein.
Ouais, c'est clair.
Par contre, effectivement, exiger un contrat de travail, parce qu'il faut bien imaginer que les étudiants sont aussi les premiers bénéficiaire entre guillemets de ce type de contrat, effectivement, et que c'est aussi ça leur est destiné.
C'est un contrat occasionnel, quoi, à la limite. C'est un peu ça l'idée, non? C'est un truc.
C'est un bail occasionnel, oui.
C'est ça, c'est
un bail. 3 à 1 an.
3 à 1 an.
3 mois à 1 an.
D'accord.
3 mois à 1 an, là, je ne vois pas du tout ce que ça peut donner. Alors, parce qu'à la limite, ils gardent le contrat meublé, ils gardent le contrat meublé et puis ils l'aménagent, mais franchement, 3 mois à 1 an. On ne voit pas trop à quoi ça correspond pour
les
des
étudiants.
Gens qui...
Les étudiants.
Oui, pour des étudiants, mais s'il y a d'autres gens qui
mais
peuvent
oui,
y avoir droit.
Il y aura tous les travailleurs détachés,
précaires. Il y a quand même
d'autres
gens qui peuvent y avoir droit. Ouais. Et à ce moment-là, ça va être encore un encouragement au mensonge, puisque ceux qui auront retrouvé du travail, il ne faudra pas qu'ils le disent.
Voilà. De toute façon, Christophe suivra l'affaire, nous la suivrons tous pour le coup, comment ça va marcher.
C'est ça, ça va vraiment changer.
Parce que c'est carrément scandaleux, quoi. Faut dire les choses telles qu'elles sont.
Oui, parce que c'est une manière indirecte aussi de virer les locataires. Parce que tu dis que des organismes d'HLM publics n'utiliseront pas ce type de bail puisque ça sera officiel.
Absolument. Tout à fait.
Et ça c'est une bonne question. Hein.
Oui. Merci Christophe. On va se faire un petit plaisir. Si tu peux nous mettre Monsieur Toublanc, donc de Frédéric Forjard, hein, qui est avec nous. J'ai dit ton nom, est-ce qu'on ne fait pas Frédéric tout seul. Voilà. Et personne n'a entendu. Merci. On va écouter Monsieur Toublanc. Ensuite, on en parle avec toi.
Monsieur Toublanc. Vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie, Monsieur Toublanc. La charité, c'est très gentil, mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi, je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Toublanc, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite, Monsieur Toublanc. Entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi, je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur Toublanc, si vous partez un beau matin les pieds devant pour vos châteaux en paradis, Monsieur Toublanc. Le paradis, c'est peut-être joli. Priez pour moi. Moi, j'ai pas le temps. Car je vis jour à Aubervilliers. Avec deux bras noués autour de ma misère, on n'aura plus tellement question à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père.
Eh bien, bravo Fred, c'est une très belle interprétation, ouais. Cette chanson qui est une de mes préférées de Ferré. Mmh. Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, il parle de la condition de mes grands-pères, un petit peu, qui étaient ouvriers, ouais. Et qu'effectivement, n'allaient jamais à la messe. Et moi, je bouffais du curé comme mes grands-pères, d'ailleurs, ils bouffaient du curé tous les soirs et tous les matins. Parce que M. Toublon, dans la chanson, c'est évidemment le pape. Hein,
il parle du pape.
Tout le monde a compris. Et donc, c'est une très belle interprétation. Pourquoi ce choix de M. Toublon ? C'est pour les mêmes raisons que tout à l'heure
C'est-à-dire que, alors, voilà, parmi les chansons qui n'avaient pas été choisies, il y avait M. Toublon. Pour une raison que j'ignore, hein, voilà.
C'est quand même une des grandes chansons.
C'est une super chanson de Ferré, on est d'accord. Et puis voilà, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, bon, il fallait que je me glisse un petit peu là où il y avait de la place. Et puis ensuite, j'ai repris un peu ma liberté en enregistrant et en montant le spectacle que j'ai monté au début de l'année et que j'ai joué au Forum Léo Ferré là.
Oui.
Voilà.
Et donc tu l'as joué à d'autres endroits également. Tu as fait une
petite tournée. Qui s'appelle La Chanson Foraine.
D'accord. Voilà. Tu as fait une petite tournée autour dans
pas
en France,
encore, non, peu, parce pas. Que bon, bah, on l'a fait en début d'année, on va le reprendre à la rentrée, puis là, à partir de là, oui, ça devrait tourner un petit peu, oui, j'espère.
D'accord. Alors, juste avant de reprendre l'entretien de façon normale, si les auditeurs ont aimé ta chanson, qu'ils veulent récupérer un disque, et comment font-ils ? Ils vont sur un.
Alors,
ils passent par moi, par l'émission ou...
On va parler de ce disque-là.
Absolument.
Parce que la première chanson, Ça te va, elle figure sur le disque qui s'intitule Léo Ferré éternel.
Oui.
Et qui a été fait, produit à l'occasion de l'anniversaire du centenaire de la naissance de Ferré.
De Ferré, bien sûr.
Hein, voilà,
bien sûr.
En 2016, donc. Et voilà, donc ce disque-là, on peut le trouver encore à la Fnac. On
D'accord.
peut regarder également sur Amazon, etc. Il est vendu sur Internet un peu partout. Je ne sais pas à quel prix, je ne peux pas vous dire. Et ce disque-là a été fait avec des interprètes connus et d'autres moins connus. Voilà.
D'accord.
Alors, il y a dessus Nilda Fernandez. Il y a Bruno Puzzolo, pardon. Désolé. Bruno Puzzolo qui dit La vie d'artiste, c'est vachement bien. Oui. Il y a Dick Rivers qui chante cet extra, c'est vachement sympa.
D'accord.
Et on ne s'attendait pas à voir Dick Rivers chanter les chansons de Ferré, c'est vrai que ça surprend un peu, mais si, il fait partie de la bande. Et puis Geoffrey Oriema. Et qui chante Thank You Satan, je crois.
Thank You Satan,
super celle-là aussi.
Magnifique chanson.
T'aimes bien si elle est.
Alors voilà, donc ce disque-là vaut vraiment le coup. Et puis à l'occasion, venez écouter la chanson foraine, parce que la chanson foraine est également sur le petit disque que je vous ai donné. Bon, il y a un petit avant-goût.
Oui.
Je fais également une reprise méconnaissable d'Avec le temps, mais elle est totalement méconnaissable.
D'accord.
Intéressante, je pense, mais vraiment différente. Et voilà. Et puis il y a un texte que j'adore et que je vous ferai parvenir, parce que je ne l'avais pas avec moi, à moins qu'il soit dessus. Je crois pas, hein, Claude.
Jamais
rien.
Non, il dit non, c'est le technicien, il est derrière sa vitre.
Voilà, non, mais tu ne dis jamais rien, c'est le titre du morceau.
Donc, spécial dédicace.
Ouais,
spécial dédicace, Claude.
C'est
là qu'il voudrait qu'on passe pour finir l'émission,
pour
c'est
finir
ça
C'est vachement long, hein.
Non, mais justement, c'est long, comme ça, les autres ont le temps de s'asseoir et puis de couper éventuellement le.
C'est
la
vrai
ouais, oui.
Vous pouvez, allez-y.
On pourra la mettre pour la fin de l'émission.
C'est enregistré en live au théâtre, je sais plus quoi. Et c'est un texte magnifique de Ferré. Bon, il y a la mémoire et la mer, mais. Tu ne dis jamais rien, c'est absolument magnifique.
D'accord.
Voilà, je vous laisse écouter.
Je te remercie beaucoup. Merci à tous et merci à toutes. Bisous aux filles et poignées de mon garçon.
Voilà, c'est ça. Bisous à tout le monde. Et puis
bonnes vacances
beaucoup
si
à vous.
Hein.
Voilà, et
merci.
Bonnes vacances. Voilà.
Et on se retrouve à la rentrée.
Voilà, merci Hugo.
Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable. L'incroyable, c'est ça. C'est ce qu'on ne voit pas. Des fleurs dans des crayons. Debussy sur le sable à Saint-Aubin-sur-Mer, que je ne connais pas.